Hop, la question de Jonathan.
Comment ils faisaient quand, à l'époque du Bétamique Dash, ils n'avaient pas de Mashiach, est-ce qu'ils en avaient besoin? Et nous, aujourd'hui, on l'attend. Justement, pour avoir le Bétamique Dash, pour faire toutes les mitzvot qui sont attachées à ça. Donc, comment eux, ils faisaient et est-ce qu'ils en avaient besoin?
Traduction en français d'abord. Est-ce qu'à l'époque du Temple, Bétamique Dash, est-ce qu'ils avaient besoin du Mashiach, du Messie? Bon, alors il faut bien faire la nuance entre les deux choses. C'est deux choses qui sont tout à fait différentes. Il est vrai que lorsque le Messie se dévoilera, une de ses missions, entre autres, est de construire le temple à Jérusalem. Mais ce n'est pas que cela. Donc, même à l'époque où le temple était construit, il manquait encore Mashiach. Mashiach, lui en tant que tel, c'est un roi. Il est vrai qu'on a eu des rois, le roi David, le roi Shlomo, etc. Mais c'est beaucoup plus que cela. Lorsque le Mashiach il arrive, il y a l'éradication totale du mal dans le monde. Vous avez marqué dans le verset, va vir et war hatuma minaret. Dieu va balayer tout le mal. C'est pour ça d'ailleurs que juste avant, il y aura le dernier soubresaut terrible du mal qui va sentir qu'il est pris à la gorge et qui voudra donc étouffer cette venue du Mashiach dans l'œuf dès qu'il y aura un début de dévoilement que le Mashiach doit arriver. Comme il se peut, encore une fois, c'est un sujet très délicat, mais comme il se peut que la Shoah a dû être aussi. Parce qu'on voit que depuis la Shoah, donc le mouvement pré-messianique il a pris de l'ampleur. Le retour en Israël, la Tchouva, c'est pas pour rien. Certains qu'on voit une constante 2000 ans, donc une Shoah, et boum, tout à coup, il y a un retour en Israël, la création d'un État. Pas que nous légitimons. Il y en a qui disent, grâce à la Shoah, il y a eu l'État. Chas et shalom de dire cela. Mais certains qu'on voit une attaque du mal, comme de toute histoire, et il n'y a pas eu, hein. il faut bien relativiser. Un traumatisme énorme que le peuple juif, c'était Girush Sfarad, l'expulsion d'Espagne. Combien ont été expulsés? 80 000 personnes. Il n'y a pas eu beaucoup de massacres, mais presque pas. Il y a eu bon, une perte financière, un traumatisme national. Mais ça a de loin rien à voir avec la Shoah. Rien, rien de rien. Donc de l'histoire, on ne connaît pas un truc pareil. Donc certains qui ici un des derniers soubresauts du mal qui sent que ça y est, il y a un début de retour, ta 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 ta, pouf! Et les nazis ont fait arriver ici à Jérusalem. Ils ont été la première défaite allemande de la guerre, c'était El Alamein, le 2 novembre 1942, avant Stalingrad. La première défaite allemande de la guerre, c'était sur la route de Jérusalem. Les gens oublient ça. Et si les alliés perdaient cette bataille, en quelques jours, ils étaient ici. Et là, c'était vraiment finito. D'accord? Niet. Baruch Hashem. Donc, Baruch Hashem. On a payé un tribut terrible, mais après tout, nous sommes là et eux ne sont plus. Quand il y aura un début de dévoilement encore plus grand du Mashiach, il est certain, le mal, c'est l'antithèse du bien. Donc, pour pouvoir survivre, il veut détruire le bien. Donc, il y aura une union des peuples contre nous, un bel Gog ou Magog. Il y aura un petit moment de tension, dont j'ignore la teneur. Il y a des écrits terribles là-dessus. Il y en a qui sont beaucoup plus faciles. Tout dépend du mérite du peuple. J'espère que nous mériterons. Donc, la grande chose qu'il y a quand Mashiach arrive, c'est cela. C'est que le mal disparaît. Dès que le mal disparaît, le bien apparaît. Le bien apparaît, ça veut dire qu'il n'y a plus de mensonge. C'est-à-dire qu'on a une relation directe avec Dieu. Il n'y a plus tous les écrans. Dès qu'il y a une relation directe avec Dieu, donc il y a un bien énorme qui vient dans le monde et il y a une connaissance de Dieu bien plus profonde. Le but ultime de tout cela, c'est le branchement, la connexion avec Dieu à très haut débit. ADSL, comme ça on dit en hébreu. En hébreu, ADSL, c'est en anglais, en français
SDSL.
Comment
SDSL.
SDSL, ok. Alors, quoi que ce soit, en tout cas, on sera à très haut débit. Voilà, le plus haut débit, aujourd'hui, Jérusalem est très très mal desservie au niveau Internet. Le meilleur débit sera à Jérusalem. Pourquoi? Un débit, d'accord, direct avec la Kibourou. Donc, au niveau de la Torah aussi, on va étudier les profondeurs de la Torah. Il y a quatre niveaux dans la Torah. Pshat, Remesh, Drash, Sod, le sens simple. C'est le Plat, Remesh, ce sont les signes. Drash, c'est l'allégorie. Sod, c'est les secrets. Même ceux qui sont aujourd'hui au niveau du secret n'étudient que ce qu'ils appellent l'extériorité de l'extériorité. Il y a l'intériorité de l'extériorité. Il y a l'extériorité de l'intériorité. Et il y a l'intériorité de l'intériorité. Et comme Mashiach viendra, nous allons tous étudier l'intériorité de l'intériorité. C'est ça ce que nous attendons. Ça, c'est le vrai but du Mashiach. Comme dit Rambam, on ne veut pas être Mashiach pour pouvoir être pépère. C'est marqué, chacun sous sa vigne et son... Alors, les gens croient qu'il y aura une vigne avec des danseuses qui vont te faire de l'air. D'accord, c'est pas ça, Mashiach. C'est pas ça le Mashiach. Mashiach, c'est la connaissance de Dieu. Calmement, on n'a plus maintenant le joug des nations contre nous, une reconnaissance des nations comme quoi nous possédons la vérité, et eux vont nous demander, non seulement les nations vont nous demander, donc ils seront à notre service pour, ils vont aider nous. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes donateur, donnez-nous maintenant le qu'est-ce que Dieu il veut. Non seulement cela, mais les anges même. Comme par la semaine, vous allez lire Balak, hein, il y a l'embracha de Bilham. Mais là, il veut maudire, à la place de malédiction, sera une bénédiction. C'est ma quête. Kaet yamer, le Yaakov ou l'Israël, ma pa'al el. Kaet, viendra un temps où sera dit à Yaakov et à Israël, donc peuple d'Israël, sera demandé, ma pa'al kel, qu'est-ce que Dieu fait? Qui va demander? Chazal disent les anges. Parce que Am Israël, à la source, est plus haut que les anges. Nous sommes la Shrina. Am Israël, c'est la Shrina. Quand on dit que la Shrina, la Shrina est avec nous. La source de l'âme d'Israël, c'est la Shrina. Donc nous sommes à un niveau de symbiose avec la divinité énorme, plus haut que les anges. Donc à l'époque messianique, aujourd'hui, c'est caché. C'est à la source, mais on n'est pas branché à notre source. Quand à l'époque messianique, on se branche à la source, donc on est plus haut que les anges. Donc les anges vont dire, alors dis-moi, Yonatan, qu'est-ce que je fais? T'as l'ange qui est là, d'accord? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Alors Hachem Bekarov, qu'on soit Zoché Berachamim. Alors Yonatan.
Il y a là une injustice un peu dans la vie du Mashiach, c'est que quand il va venir, Dieu est censé donner les mêmes choses de Tshuva à tout le monde. Donc quand le Mashiach va venir, c'est pas tout le monde qui aura eu la même chance d'avoir fait Tshuva, parce que certains auront 50 ans, d'autres auront 20 ans, certains seront dans un milieu religieux, d'autres pas.
C'est clair, oui, tu as aussi une question?
Juste pour ajouter un peu, quand le Mashiach va venir, donc ça sera pour tout le monde. Il y en a qui l'attendent, il y en a qui ne l'attendent pas. Est-ce que, déjà dans le désert, les Israël ne supportaient pas la présence de Dieu? Beaucoup ne supportaient pas. Comment nous, on va supporter ça?
Ouais, c'est deux questions intéressantes. Alors la première, la réponse est très simple. Nous avons confiance en Dieu, comme quoi Dieu est juste. Il est vrai que les grandes générations qui savent et qui voient ont déjà dit depuis une vingtaine d'années que ça fait bien longtemps que Mashiach doit venir. Simplement, Dieu veut qu'il y en ait encore quelques-uns de plus qui soient présents pour sa venue. Je ne sais pas comment Dieu va juger. Je ne sais pas où est la barre. Mais il y aura un jugement. Pas tout le monde peut voir Mashiach. Mashiach, c'est un... Comprenez de quoi on parle. C'est dans les premiers versets de la Torah, hein, les deux premiers versets, comment c'est marqué? Au début, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. C'était Tohu Bavou. La terre était Tohu Bavou, Tohu Bohu. Le Midrash dit Tohu, c'est la première royauté qui s'est opposée à Israël lorsque le temple a été détruit, Babylonie. La Babylonie. Bohu, c'était la deuxième, la Perse. L'obscurité la surface du précipice, Rochar Pentehom. Rochar, l'obscurité, c'est qui? C'est la Grèce. C'est pour ça que Hanouka, quand nous fêtons la victoire contre la Grèce, on allume des petites lumières pour repousser l'obscurité de la Grèce. Sur le précipice, c'est Édom. Édom, c'est donc Rome, par extension la chrétienté, tout le monde occidental, 2000 ans d'exil, long comme le Tehom, comme le précipice, on ne voit pas le bout. Ruach Elohim est l'esprit de Dieu, le souffle de Dieu. Merachefet Pneamaim planait sur la surface des eaux. Le souffle de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est le nom du Mashiach, comme ça dit Chazal. On parle d'une chose qui est le pourquoi et le comment, c'est la finalité du monde. C'est un moment extraordinaire, c'est le moment que attendent. Ça fait bientôt 6000 ans que l'univers, les anges, les petits poissons dans la mer, tout le monde attend que ce moment arrive. Tu ne peux pas le recevoir avec le piercing dans l'oreille et la Goya sous le bras, ça ne marche pas. Alors je ne sais pas où est la barre, j'ignore. J'espère que Dieu, après qu'on a tellement souffert, et que voit qu'on a souffert une Shoah physique, après la Shoah physique, une Shoah métaphysique, décès du peuple juif lui-même, une partie du peuple juif d'éradiquer complètement tout judaïsme du peuple juif, tous les mouvements libéraux, tous les mouvements sionistes athées, tout, qui sont battus, qui se battent encore jusqu'à aujourd'hui. J'en reviens maintenant d'un pays où, encore là-bas maintenant, il y a une école qui se bat, qui n'est pas de Torah dans le peuple. Et des gens qui sont... Il y a très peu de monde dans ce pays. Et il y a quelques-uns qui sont unis pour créer une école où il y a un peu de Torah. Un peu de Torah. Mais c'est une guerre. Des juifs qui se battent pour qu'il n'y ait pas de Torah. On sait très bien après quoi, qu'est-ce qu'ils ont dormi à ces gosses. Après, ils viennent en France, et voilà, ils sont complètement, ils s'assimilent, comme ça. Il y a des juifs qui sont pour l'assimilation, point barre, c'est clair. Libéraux, c'est clair. Ils diront non, mais regarde, il y a les chiffres aujourd'hui, d'accord. Sur 4 générations, sur 3, je ne me souviens plus, sur 100 personnes libérales, t'en as 7 qui restent juives, dans la descendance. Donc, alors que dans le monde orthodoxe, c'est dans les 2006, 3000, après 3 ou 4 générations. Je ne sais pas où est la barre. Mais il est certain qu'un moment extraordinaire, pas tout le monde peut mériter. Que va faire Dieu avant? C'est marqué, c'est la dernière prophétie qu'il y a dans toute la Bible. Le dernier prophète s'appelle Malachi. Malachi, 3 chapitres. Le dernier, l'avant-dernier et dernier verset, 10. Hine anochi sholach lachem. C'est les chansons qu'on chante. C'est les chansons qu'on chante toujours avec les secrets les plus profonds, c'est ce qu'on chante. Comme ça, les gens ne font pas attention. Ils croient qu'ils ont compris, ils n'ont rien compris. D'accord? Hine anochi sholach lachem. Voici, je vous envoie. Eliaou anavi. Eliaou, le prophète. Lifne bo. Avant que vienne. Yom Hashem, le jour de Dieu. Haggadol vanora, grand et redoutable. Chazal l'ont dit, grand si on a fait tchouva, redoutable si on n'a pas encore fait tchouva. Ve. Eshiv lev avot albanim, lev banim al avotam. Et il ramènera le cœur des enfants à leur père et le cœur des pères à leurs enfants. Il ramènera le cœur des enfants à leur père. Le père est religieux. L'enfant, il a tout envoyé bouler. Et à la fac, le père, c'est vieux jeu terminé, papa, il faut être moderne. Et tout à coup, le gosse, il fait tchouva. Il revient. Comment il revient? Yohan Navi vient. Alors, Chazal, on dit déjà. Hein, que Yahon Avi, il y a une période où il viendra en chair et en os. Il y a une période où il vient plus en chair et en os, il vient en tant qu'ange. Nous avons déjà, depuis longtemps, passé la période où il vient en chair et en os. Donc, il vient, mais en tant qu'ange. Vous avez tous des exemples vivants de cela. D'accord? C'est que tu vis ta vie normale, la tendance vers la nullité, d'accord? Vers l'assimilation. Et puis, tout à coup, tu te dis, mais c'est complètement fou. Tout à coup, t'as une pulsion, un truc machin. Allez, j'ai un cours de Torah. Allez, j'ouvre internet un cours de Torah. Il faut écouter un barbu. Il faut le faire. Je veux dire, la Torah, elle est antique. Restons calmes. Hein, j'ai la synagogue. Va en boîte. T'es bien plus ce qu'ils font dans la synagogue. Va en boîte. D'accord. L'été, j'en ai à Shiva. Marboule. Va à la mer. C'est extraordinaire. C'est complètement miraculeux. Qu'est-ce qui s'est passé? Chaque personne, même quelqu'un lui a parlé, a été un cours, ça l'a influencé. S'il va à la source, tout à coup, il y a eu un intérêt. De quoi provient cet intérêt? Quoi? Pourquoi? Et à la source, on voit, c'est pas de nous. C'est pour un mérite que nous ne connaissons pas. Il y a eu une perche tendue. Et là, on avait venu avec sa baguette magique, tac, il t'a touché. T'as une pulsion. Maintenant, où tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je débloque complètement. Allez, vite, une fille. D'accord? Un peu pour... C'était terrible, ça. C'était terrible. J'étais à la yeshiva la première année. À l'époque, en Israël, il y avait les premiers séminaires, type Arachim, en hébreu, une semaine. Et ça commençait à faire du bruit comme ça en Israël, on en parlait. Alors, il y a un journaliste qui s'est déguisé en participant au séminaire et qui a fait un... Il raconte, d'abord, ce sont des chansons très sympas, des rabbins modernes, etc., etc., etc. Et la nuit, il a rêvé de tzitzit, des talis, des tzitzit, des trucs comme ça. Si le matin, aïe, si je commence maintenant à rêver de tzitzit, il n'y a pas de bonne femme, comme ça il met dans l'article, ça devient dangereux. Donc il est parti, d'accord? Il a écrit l'article très bien, mais il a dit dans l'article, voilà, c'est dangereux, parce qu'on se met à rêver de tzitzit, et puis, alors, le type, il avait, ça va, t'as été, c'est probant, ça tient la route, c'est vrai, bon, tu sens que maintenant c'est tellement vrai, oulala, vite un peu de mensonge, d'accord? Il a rêvé de tzitzit au lieu de rêver de bonne femme. Terrible, le type. Il s'est flingué. Autosuicide. Donc, il y a une époque où le fils, il revient vers le père. Et Yohan Avi vient en tant qu'ange et nous réveille. Et le cas contraire, le gosse a fait tchouva. Le père s'est battu, c'est un anti. Et tout à coup, le père est dit, allez, t'as raison, mon fils, j'ai un acte de la synagogue. Et il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Nous sommes en train de vivre cette période, c'est indéniable. Maintenant, donc, des perches sont tendues. J'imagine, comme j'ai commencé à dire, on a confiance en Dieu, que Dieu fait bien les choses. tout le monde a reçu sa perche qui lui correspond. Il se peut que quelqu'un qui est très loin et qui n'est pas religieux sera considéré comme Tinoch Shenishba, comme un inconscient complet, et il passe au labar. Et un type qui, au contraire, était dans le bain, simplement vu les conditions de son âme, qui il est comme âme, quelle éducation il a reçue, quelle sensibilité au judaïsme il a, et malgré tout, il a choisi la mauvaise voie, il ne méritera pas. D'accord ? Le seul qui sait, c'est Dieu. Il y a tellement de paramètres, comme je dis, l'âme, l'éducation, le background, etc. 40 000 choses. Qui peut juger ? J'ai l'impression, non seulement que Dieu attend, et comme ça, plus de gens rentrent dans le train, j'ai l'impression aussi que Dieu fait deux choses pour que le maximum de gens puissent participer à cette fin. D'abord, plus la galoute continue, plus il y a de la souffrance. Et Am Israël souffre. Partout, tout en la tête, tu vois des maladies terribles, tu vois la pauvreté, tu vois des choses qui sont très 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 dures. C'est marqué qu'Anin Achav Kemet, un pauvre, il est considéré comme mort. On dit qu'en Israël, 1,5 million de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Donc, à la place qu'il y a un vrai Gogo Magog, et que l'Iran ouvre une bombe atomique ou du gaz ou je ne sais pas quoi, peut-être que Dieu, il a un rahamim, et qu'il y a d'autres souffrances qui passent à la place, à la place que ce soit une vraie guerre terrible ou... C'est marqué dans certaines prophéties que 2/3 du peuple vont être retranchés. Zacharie, fin chapitre 13, 2/3. Et le reste, encore... Donc, il y a des côtés comme ci, des côtés comme ça. Deuxième chose que je pense que Dieu fait pour qu'il y ait le plus de monde qui vienne, c'est que le mal devient de plus en plus mal. Un point tel où quelqu'un qui est un minimum sensé se dit « Oh là, oh là, ça commence à dépasser toutes les bornes. » Une qui est prête à Jérusalem. Quelqu'un qui aime bien Israël. Hein, comme n'importe quel Français, il aime bien l'État d'Israël. Bon, il voit un truc pareil. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Du coup, il commence à comprendre, tiens, il y a deux Israël. Il y a un vrai Israël, juif, puis un, on appelle ça Erevrav, d'accord, qui est l'antithèse, qui veut la fin du peuple juif. Comment? La fin du peuple juif spirituel, qui après entraînera la fin physique, mais spirituelle. On veut pas être juif. On veut une guépra de Jérusalem la veille de Rosh Hashanah. Hier, j'étais à un mariage, je vais annoncer un élève là-bas qui est caméraman. Il m'a raconté que la semaine passée, on l'a appelé pour une bar mitzvah. Comme ça, quelqu'un, un non-religieux l'appelle pour... Il a besoin d'urgence d'un caméraman un vendredi après-midi, un vendredi de 11h à 3h, pour une bar mitzvah. Il dit, je peux pas, j'ai pas le temps, tout ça. Et que j'ai besoin, vas-y, ok, il y va. C'était pas une bar mitzvah, c'était un mariage entre femmes. À Jérusalem, veille de Shabbat. Le caméraman lui a dit, écoute, je ne vais pas te planter, mais tu as un quart d'heure pour trouver un autre caméraman, moi je reste un quart d'heure, pas une seconde de plus. Il s'est à Jérusalem, donc je m'en ai eu du monde, mais ouais, 200 personnes qui vont au mariage. Yahem Hashem. Donc, alors, moi je pense que quand des gens ils entendent des choses pareilles, même les grands, on croyait au sionisme athée. Bon, ok, sionisme, très bien, appartenance à la terre d'Israël. Ton État, que tu aimes tellement, il te rend gouchkatif. Allez, il te met tous les habitants dans des situations d'habitat terribles, comme il y a 50 ans. Donc, quelqu'un... Donc, Dieu te fait des petits signes, clic, clic, attention, qu'est-ce qui se passe? Quand tu vois la débauche, quand tu vois la morale, quand tu vois la déprime, quand tu vois la drogue partout, quelqu'un qui a un minimum de... Il se dit, où je suis? Donc, tu es obligé de faire un choix. Si c'est flou, ça va bien. On est il y a 40 ans, on est un intellectuel juif, on parle, on n'est pas religieux, mais bon, ça va, tout va très bien dans le meilleur du monde. Ok, pourquoi pas, je comprends. Mais là, tu es dans une situation où tu dois décider, ou là, ou là. Donc Dieu fait cela pour que les gens choisissent. Ça veut dire qu'on est proche, et que bientôt le train va partir. Le Rav Moshe Shapira, qui est un des plus grands rabbins, pensée juif ici en Israël, c'est pas le plus grand, il dit, pour ceux qui ont l'oreille fine, il dit, vous savez, à Paris, comme ça il dit, à Paris, il y a le métro. Il dit qu'avant que les portes se ferment, il y a une petite sonnette comme ça, hein, un petit signe d'alarme. Il dit, pour ceux qui ont l'oreille fine, ils sentent déjà depuis quelques années que la sonnette d'alarme est en train de sonner. Il faut vite rentrer parce que les portes vont se fermer. Alors, qui sera dehors? Qui sera dedans? J'espère que je serai dedans. Je ne peux pas le dire sur moi-même. Peut-être que quelqu'un qui a une responsabilité et qui ne la fait pas à 100%, il est beaucoup plus coupable. On ne sait pas. Personne ne peut dire « moi j'y passe ». On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Aucun moyen de savoir. Tu peux savoir. Tu peux savoir que...
Si vous y passez pas, personne ne
peut. Mais non. Mais non. Regarde. Mon cher Rabbeinu, c'est la semaine passée, la paracha de la semaine. Petite erreur de rien du tout. Au lieu de parler au rocher, il frappe le rocher. Il passe pas. Tout le monde passe, mais il passe pas. Alors, on ne sait pas comment Dieu y juge. Il y a Hachem Hachem. Personne ne sait. Il y a un autre qui a l'air d'être un nul. Et il est nul. D'accord ? Mais par rapport à sa nullité, ce qu'il a fait, c'est déjà pas mal. Il passe. Oh là là. Oh là là. Donc on ne sait pas. On ne peut pas savoir. J'imagine que les grands haïsseurs de Dieu qu'il y a dans le monde chez les Goïm et dans le peuple juif, eux ne passeront pas. Donc j'ai répondu. Maintenant, Raphaël, rappelle-moi en deux mots ta question. Pardon ?
Pas, comment, déjà, les bénéficiaires qui étaient dehors d'Ea, qui ne supportaient pas
la lumière.
D'Hachem, comment nous, on va supporter ?
Alors, il est vrai que, bon, pour la question de Raphaël, alors dans le désert, les Israël n'ont pas supporté la proximité de Dieu. Preuve en est que 40 jours après qu'ils étaient dans une proximité terrible, ils ont fait le veau d'or. Qui nous dit que nous, on ne va pas faire la même gaffe ? Idem, le premier homme. Lorsque les Israël sont arrivés au bas du mont Sinaï, ils ont réparé. Le péché du premier homme se révèle au niveau du premier homme avant le péché originel. Quand ils ont fait le veau d'or, ils sont retombés. Donc, il y a eu premier échec le premier homme, qui lui, dans le même principe, il n'a pas voulu une proximité trop grande de Dieu, il a voulu ingurgiter du mal, le fruit, la connaissance du bien et du mal, comme ça, il n'est pas aussi proche de Dieu, il a une plus grande marge de choix, parce que la lumière de Dieu est moins ostensible, donc, il a une bataille plus grande, mais il ressort beaucoup plus fort quelque part. Ok, et il s'est planté, parce que ça fait 6000 ans qu'on galère à cause de cela. Idem, Vaudor. Qui me dit que ce ne sera pas la même chose maintenant, de nouveau? Alors, il y a une promesse très claire. Il y a une promesse que cette Géoula est la dernière. Ça, c'est une Géoula. Là, on n'aura pas la possibilité, même si on veut, de retomber. Surtout que j'espère qu'on est quand même assez intelligent, bien qu'on est vraiment bête, mais qu'on est quand même assez intelligent de... 5000 ans déjà d'expérience de notre peuple, des bêtises qui ont été faites pour ne pas retomber. Mais en plus, il y a la promesse. Attends, il est vrai qu'il y aura une très grande proximité de Dieu et que, quelque part, ça peut gêner. C'est marqué clairement. Il y a un verset qui dit « Hine yamim baim asher en baim hefetz » Voici des jours qui vont venir desquels nous n'avons pas envie. Alors, il y a deux explications dans ce verset. Il n'y aura pas d'envie dans ces jours-là. Toute l'envie, toutes les pulsions qu'on a aujourd'hui qui sont contraires à ce que Dieu veut, vont disparaître. Il n'y aura qu'une envie de Dieu. Une soif de Dieu, une soif de tout ce qui est spirituel. Toutes les envies... Pardon ?
L'envie de libre arbitre, c'est-à-dire...
Exactement, exactement. Premier pchat. Deuxième pchat, ce sera des jours dont on n'aura pas envie. On dira, c'est dommage. On était beaucoup mieux avant. Pourquoi ? Parce que lorsque tu as du libre arbitre, tu existes. Tu avances, tu recules, c'est toi qui décides. Lorsque maintenant, Dieu est là, bah, tu n'as pas le choix. Tout le monde va comme ça, le troupeau. D'accord ? C'est un troupeau sympa, c'est le troupeau du paradis. Mais tu ne peux pas être au paradis et dire, moi je vais aller maintenant un peu en enfer. Non, tu es au paradis, terminé, d'accord ? Tu suis le programme, qui est un beau programme, le plus beau programme du monde, du kiff qui aura le plus grand qu'il puisse y avoir, mais tu n'as plus de choix. Donc quelque part même, on va dire de façon plus intellectuelle, n'ayant plus de choix... Tu n'as plus la possibilité d'être, en tout cas, dans la même amplitude qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, vu que tu as une marge de choix qui est grande, donc tu es par toi-même. Tu peux être grand, tu peux être petit, c'est toi qui décides. Tu peux avancer beaucoup, tu peux reculer beaucoup. Mais tu peux, c'est toi. Ma chère viendra, il y aura encore, mais beaucoup moins. Comment on sait qu'il y aura encore ? Parce qu'aucune des mitzvot ne va être annulée. Donc s'il y a des mitzvot, ça veut dire que on t'ordonne. Donc tu peux choisir oui ou non. Il y a une mitzvah de tchouva, par les centres mitzvot, il y a une mitzvah de tchouva. Donc, s'il y a tchouva, ça veut dire qu'il y a aussi une possibilité d'erreur, mais beaucoup plus petite. Alors, Benson avait dit qu'il n'y aura plus que tchouva de Ahava. Aujourd'hui, il y a tchouva par crainte, et tchouva, repentir par amour. À l'époque messianique, il n'y aura plus que repentir par amour. Ça veut dire que tu pourras avancer, mais ça sera facile d'avancer, donc tu ne seras pas très méritant de ce que tu as avancé, donc tu seras au niveau de ton être à une amplitude beaucoup plus petite. Donc, on dira, nous n'avons pas envie de ces jours. Nous regrettons les jours d'antan. Et c'est vrai. Alors pourquoi est-ce qu'on attend tellement Mashiach ? Répond Chafetz Chaim, pas pour nous. Pour le klal, pour la collectivité. Il est insoutenable pour quelqu'un qui aime la vérité de vivre dans un monde où c'est tout le contraire. C'est un chilou Hashem, c'est une profanation du nom de Dieu. Dieu qui nourrit, qui veut amener à son monde tout le bien, et regarde le monde qu'il a. Ça doit cesser, il faut que la vérité un beau jour éclate au grand jour, par amour de la vérité. Mais personnellement, on n'a rien à gagner. Bosser, c'est maintenant.
Si on avait vécu en 62, ou à la guerre du Golfe, on aurait été sûr que demain, ça aurait été le
67e.
C'est vrai. C'est vrai. Hein ?
Il y a des époques qui avaient l'air beaucoup plus.
Non. Il n'y a jamais eu la tchouva comme il y a aujourd'hui. Il n'y a jamais eu la décadence comme il y a aujourd'hui. Donc les deux côtés, c'est marqué, avant que ma chère vienne, il y a les deux côtés, lumière et obscurité. Avant c'était flou, maintenant il y a lumière, il y a beaucoup de lumière. Et il y a une obscurité terrible aussi, tu vois, des trucs terribles. Je me tais de raconter d'autres histoires que j'entends, mais dernièrement, chaque jour j'entends des histoires, mais à les dresser les cheveux comme ça, d'accord. On n'a jamais entendu des trucs pareils, terribles. Maintenant, la chutzpa isgay, l'insolence qui monte, phénoménal. C'est marqué avant que ma chère viendra, les prix vont monter. T'as déjà une fois dans l'histoire une crise pareille. 73, c'est de la gnonote à côté. Le crash de 29, je sais même pas ce que c'est par rapport. Tu t'entends que. Non, t'es pas dans la finance, toi. D'accord, mais aujourd'hui, regarde, ça monte. Hein, que l'Iran fait hapchi, déjà, hop, ça monte de $20 le baril. Et attends que ça commence le balagan. Alors, oui, Jonathan.
C'est marqué dans le Talmud que le Mashiach viendra dans une génération soit totalement coupable, soit totalement innocente. Donc aujourd'hui, on ne sait pas comment se passer. En même temps, il y a un grand monde de Torah. En même temps, il y a énormément d'assimilation.
Alors, quelle est ta question ? Ta question, elle est... Est-ce que nous sommes plutôt coupables ou plutôt innocents ? À mon avis, nous sommes plutôt innocents. Parce que même tous ceux qui sont en voie d'assimilation... C'est différent comme par exemple la période qu'il y avait avant la Shoah. Depuis un siècle avant la Shoah jusqu'à la Shoah, il y a eu un mouvement de la part de personnes qui connaissaient le judaïsme d'éradiquer le judaïsme du sein du peuple juif. Une haine terrible. Aujourd'hui, cela existe aussi, mais ce sont des ignares. La grosse majorité des non-pratiquants sont des ignares qui n'ont rien reçu. Et qui sont des bons juifs. Et si on leur montre un peu de vérité, ils reviennent, d'habitude. Première réponse. Deuxième réponse. On n'est pas les boss du monde. C'est lui le boss. Et nos visions sont très très petites. Il y a un grand rabbin ici, à Jour de l'Ami, environ un siècle, le rabbin. Michael Tikhotchinsky, il a écrit un bouquin qui s'appelle Gesher Achaim. Il donne un exemple là-bas, l'exemple suivant. Il dit, imaginons, on a maintenant dans le ventre d'une mère, deux jumeaux. Elles le discutent. Ils disent, dis-moi, il y en a qui disent qu'un beau jour, on quitte ce monde-là, on passe à un autre monde, époque messianique, je ne sais pas quoi, on passe à l'extérieur. Il y aura une autre sorte de vie, T'es fou. Sans liquide amniotique, mais tu crèves sur place. Sans cordon ombilical, ça va pas. Les narines, il y a de l'eau, les poumons, c'est autre chose. Il est impossible que tu puisses vivre dans ces conditions à l'extérieur. Il te faut de l'eau. Un liquide amniotique, comme on l'appelle. Avec l'eau, avec l'air à l'extérieur, tu crèves tout de suite. Bon, tu penses, ok, moi je pense qu'il y a quelque chose après l'eau. Non, c'est ici qu'on reste, il n'y a que ici, pour toujours on reste là. Et tout à coup, hop, contraction, bzoup, le premier il sort, celui qui se disait qu'il y avait quelque chose après. L'autre qui reste, il dit, ah, le pauvre, il est parti, miskin. Du coup, il entend pleurer dehors. Tiens, hop, on le met. Lui, tout à coup, il voit, miracle extraordinaire qui se passe. Les poumons se remplissent d'air. Le cordon ombilical, il ne pouvait pas vivre, on le coupe. Les yeux qui s'ouvrent, tout ce qui était fermé s'ouvre, tout ce qui s'ouvre, tout ce qui était ouvert se ferme. Mais tu sais comment c'est. Mais si on rate d'une fraction de seconde, le gosse, il meurt étouffé. C'est inimaginable ce qui se passe. Mashiach, c'est une Leda. C'est un accouchement. On parle de douleur d'accouchement du Messie. C'est une Leda. Entre avant et après, ça prend comme ça. Et tout change. Tout change. Dieu, il n'a aucun problème de faire comme ça, mais c'est rien, c'est rien. Si tu regardes le monde, il tient sur des paramètres de rien, de rien. C'est un petit comme ça, tout peut balancer. Et le Midrash dit, il y avait un roi qui avait des habitants de son pays, il y avait une ville, il y avait une route, et sur la route, il y avait un gros rocher. Il a dit à tous les habitants de son pays, allez sur la route maintenant, et enlevez le rocher. Il m'a dit, mais sa majesté, le rocher, il est énorme. Allez-y, commencez à travailler. Vous allez avec vos petits martelets comme ça, tac, 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 vous allez couper la moitié. Moi, après, je viens, j'ai mes tracteurs, zip, et j'enlève d'un coup. Nous, pour nous, la montagne, elle est énorme. Comment on peut faire qui, quoi, comment? Alors, nous, on a enfin nos petits boulots avec les petits martelets. Dieu voit, ok, vous bossez bien, je viens. Il fait schlac, schlac, terminé. Terminé. C'est pas compliqué aujourd'hui. Tu comprends, on vit d'après nous, mais ma chère vient. Je sais pas ce que c'est, mais s'il a un pouvoir énorme, un dévoilement de vérité totale, d'un coup. Donc, à mon avis, on est plus dans le côté innocent. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Le dor qui kulo chayav, entièrement innocent, entièrement coupable. Il y en a qui voulaient dire rubo qui kulo. La majorité, c'est comme kol. On peut jamais avoir que tout le monde soit coupable et que tout le monde soit innocent. Ça n'existe pas une chose pareille. Donc, je veux dire, ça veut dire la majorité. Et le calcul n'est pas au niveau du nombre de personnes, mais à la qualité. Et c'est marqué, très clairement, que Dieu, pour une personne qui fait tshuva, peut pardonner pour le monde entier. Donc à nous de faire notre petite chouva avec nos petits martelets dans nos coins, notre Hachem comme cela, le Mashiach viendra très bientôt. Baruch Adonai, le monde va mais...